Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Alors on est très content de vous retrouver après cette purge, cette trêve internationale, encore une autre, où on a pu voir notre belle équipe de France nous offrir un score très gratifiant face à la grande équipe de Gibraltar et peiner face aux monstres grecs, mais bon, on est qualifié, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de deux gros matchs de la 13e journée, donc PSG contre Monaco et Lyon contre Lille. Et j'ai deux personnes qui m'accompagnent, donc un petit nouveau, Baptiste. Baptiste, comment tu vas ?
Hello Dest, salut Max. Écoute, ça va très bien. Très content que la trêve soit terminée parce que, bon, c'est pas qu'elle était passionnante, mais bon. Non, mais très content de parler de Ligue 1, surtout avec toi et Max.
Voilà. Nickel. Et toi, Maxime, comment tu vas ? Le retour aussi un peu.
C'est ça. Salut Dusty, salut Baptiste, salut à tous. Ça va faire du bien de retrouver les championnats parce qu'on aime bien les petites trêves avec les sélections, mais toujours agréable de retrouver les championnats et je pense que même les joueurs ont hâte de retrouver leur championnat.
Nice. Alors on va commencer direct. PSG Monaco, c'est donc le premier face au troisième. Donc 3 points d'écart entre les deux équipes. Donc c'est une rencontre qui s'avère très très chaude, surtout qu'on sort d'une trêve internationale. Donc trêve internationale, voilà, des joueurs qui arrivent très tard, fatigués. Surtout que là on a des joueurs aussi qui reviennent blessés, comme Warren Zaïre-Emery ou bien encore un Marquinhos qui est diminué, qui ne seront pas présents pour cette journée. On sait que du côté du PSG, on a aussi un Nuno Mendes qui est toujours absent, Sergio Rico et Presnel Kimpembe qui sont toujours absents, Danilo Pereira qui était un peu indécis, mais apparemment il devrait être là dans le groupe et on devrait aussi compter Asensio qui ferait son retour dans le groupe. Et du côté de Monaco, on a toujours Mbolo qui est blessé, Caio Henrique qui est toujours absent, tout comme Ben Seguir, Boadou, Youssouf Fofana qui est lui suspendu, on va en rediscuter, c'est quand même l'une des pièces maîtresses du milieu monégasque. Donc moi j'ai envie de savoir tout de suite, je te pose la question Baptiste, à quel type de composition va pouvoir s'attendre du côté à la fois du PSG, de Monaco? Est-ce que Monaco va se renier comme l'ont fait certaines équipes de Ligue 1 pour renforcer leur défense en jouant par exemple avec un 5 plus défensif? Dis-nous tout, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, globalement, je pense que du côté PSG, on va commencer par l'équipe à domicile. Tu l'as dit, les blessures de Marquinhos, et de Warren Zaïre-Emery, ils vont être remplacés, je pense, peut-être pas poste pour poste, mais moi je vois bien Lucas Hernandez passer à la place de Marquis, décaler Mukiele à gauche comme il a été fait, je crois que les deux derniers matchs de championnat, Montpellier et Reims, selon moi, et Warren Zaïre-Emery qui est remplacé poste par poste pour Ruiz. Globalement, je vois comme ça, et l'équipe classique avec soit Colomboigny, soit Ramos devant. Je pense que Asensio est trop juste. Et Vitinha ou Kanginli, je vois plus Vitinha parce que Vitinha joue. Il ne s'est pas tapé le voyage Corée du Sud-Paris. Donc je vois un truc assez classique. Et je vois pas Danilo parce qu'il revient de blessure, donc ça donnerait Donnarumma, Lucas, Skriniar, à droite Hakimi, à voir si c'est pas solaire, parce qu'Hakimi il a joué mardi, mais je pense quand même à un gros match Hakimi. À gauche Mukiele, Ugarte Ruiz, Vitinha, et devant je vois Mbappé, Ramos ou Colo et Dembélé quoi.
Ok, ouais, un classique quoi un peu.
Ouais, je vois un gros match de Ligue 1, donc compo classique quoi.
Ok. Et côté Monaco, t'as une petite idée de qui pour aligner ?
Je la donne ou tu préfères que ce soit Maxime, vu que j'ai bien accaparé la parole.
Côté Vas-y, vas-y.
Côté Monaco, je vois classique, mais après.
Non, mais continue, Baptiste, hein. Désolé, hein, je t'ai vu, t'étais lancé, donc vas-y, tu peux continuer. Ou on va peut-être laisser. Bah, Maxime, je te laisse enchaîner et nous dire toi ce que t'en penses bah, voilà, du 11 qu'on pourra avoir du côté de Monaco.
Alors déjà, bah, je vais répondre à Baptiste et c'est vrai que je suis assez d'accord avec son 11 côté PSG, 4-3-3 classique, oui des blessés, Marquinhos et Zaïre Emery, mais je vais pas dire qu'ils peuvent être remplacés facilement, mais voilà, il y a des joueurs de substitution qui vont pouvoir prendre la place parce que c'est une équipe qui a quand même l'habitude de faire tourner un petit peu sur certains postes et donc ça va pouvoir être assez simple de repartir sur un 4-3-3. Après, côté Monaco, c'est vrai que la blessure de Fofana, enfin en tout cas non, pas sa blessure, mais le fait qu'il a la suspension de Fofana va poser problème parce qu'il a l'habitude de jouer. C'est vraiment un titulaire indiscutable du côté de Monaco. Je verrais bien Elliot Matazo pour le remplacer parce que c'est un petit peu le même rôle, pas la même qualité, mais un petit peu le même rôle. Donc je pense qu'ils vont garder leur équipe avec les trois défenseurs parce que ça va pouvoir quand même faire du bien, je pense, à une défense Monaco qui est en place avec Magasa, Maripane et Singo. C'est vrai que à chaque fois que les trois ont joué, je crois qu'il n'y a pas eu de défaite. Donc ça pourrait être très intéressant. Ils ont l'habitude d'avoir leurs deux joueurs Golovin-Minamino juste derrière Ben Yedder. Donc à mon avis, ça pourra partir là-dessus avec au milieu de terrain Zakaria-Matazo et les deux petits pistons avec Jacobs et Diatta qui pourront être là, je pense.
Ah, donc toi
Et côté voix,
tu vois pas
excuse-moi.
Balogun en attaque.
Ben, contre le PSG, je pense que le coach va pouvoir faire confiance à Ben Yedder. Et si ça se passe pas très bien, ou si voilà, le PSG commence à enfiler des buts, notamment avec Kylian, là, dans ce cas-là, il pourra peut-être passer avec deux pointes et faire rentrer Balogun.
Ok.
Excuse-moi de style,
Vas-y.
excuse-moi de style, tu vois plus Matazo que Camara là. Que Camara qui a fait un match énorme l'année dernière au Parc d'ailleurs, au niveau du pressing et tout. Tu vois plus ça, Max?
Ouais, moi je verrais plus Matadzo parce que c'est vrai que Camara est vraiment défensif et Matadzo va avoir un peu plus de va pouvoir pousser un peu plus vers l'avant. C'est vrai que Camara, c'est possible aussi, hein, mais je me dis qu'il va peut-être essayer de faire tourner un petit peu.
Ok.
Avoir un peu de jeunesse à côté de Zakaria.
Ok.
Mais
Non, mais de toute façon, je pense qu'on est d'accord sur le fait. Excuse-moi, Lest.
non, vas-y,
On est
continue.
d'accord sur le fait que. On est d'accord sur le fait que. En fait, moi, je ne sais pas à quoi m'attendre côté Monaco. S'ils vont aller chercher vraiment le PSG et les presser, ou s'ils vont reculer et chercher le dos de Skriniar, de Lucas Hernandez, si Danilo joue, de Danilo. Je pense que c'est la vraie interrogation du match.
Bah, c'est justement sur cette question, voilà, tu voulais enchaîner, c'est est-ce que Outer va se renier en faisant, voilà, adaptant son 3 défenseurs à plutôt 5 défenseurs avec Jacobs et Diatta qui joueraient plus bas, ou même Vanderson, ou alors il va, voilà, rester fidèle à sa philosophie, puisque Monaco, ça reste quand même une équipe qui aime bien jouer. Alors, j'aime pas trop dire contre-attaque, mais voilà, qui aime des attaques rapides, qui fait beaucoup de sprints. C'est l'équipe en Ligue 1 qui fait le plus de sprints, hein, le PSG est à peu près troisième. Donc j'ai du mal à voir en fait un Monaco qui va être défensif, qui va attendre le PSG et ouais, qui va jouer que en contre. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai du mal à voir Monaco jouer comme ça demain, quoi.
Bah, ça va surtout dépendre de la physionomie du match aussi, je pense. Si on a un PSG qui presse très haut et qui joue le jeu de possession qu'il a l'habitude de jouer, Monaco n'aura pas forcément le choix de justement de se replier, de passer de ses trois défenseurs avec Jacobs et Diatta qui vont devoir redescendre pour justement faire des contre-attaques. Ça va vraiment dépendre de la physionomie du match et de ce que propose le PSG, je pense.
Mais dans un PSG qui a, voilà, du mal à quand même casser les lignes, C'est l'une des problématiques aujourd'hui. Ils ont du mal à avoir des joueurs qui, par la passe, vont casser des lignes. Ils ont perdu le joueur qui pouvait casser des lignes en faisant des montées, qui était Warren Zaïre-Emery, hein. C'est vraiment ce joueur puissant qui arrivait à monter, voilà, le ballon de 20-30 mètres. Skriniar a du mal à le faire. Danilo, s'il joue, c'est pas son taf. On sait que pour l'instant, Hernandez a plutôt un rôle assez défensif au PSG. Alors certes, on verra peut-être Hakimi jouer à droite, hein, ou Mukiele, mais on voit que le PSG, il a quand même du mal, voilà, à ressortir ces ballons-là et qu'il a du mal face à une équipe qui presse très haut et très fort, ce que Monaco peut faire. On l'a vu contre Reims, ils ont galéré en première mi-temps, surtout si on part avec la même compo quasiment. Est-ce que on se dirige pas vers un vice repetita, sauf que cette fois, ils auront une équipe qui est plus efficace en attaque. T'en penses quoi, Baptiste?
Globalement, en fait, sincèrement, le PSG, on sait à peu près comment il joue. Moi, j'ai aucune surprise. Quant à ça, c'est vrai qu'ils ont un peu du mal avec le pressing, mais ça va quand même un peu mieux au parc. Ils arrivent un peu mieux sortir la balle. Ça, à la rigueur, moi, c'est vraiment Monaco qui me pose un questionnement sur ce match, parce que je ne sais pas s'ils vont venir très très haut. Parce que globalement, le vrai problème de venir très très haut, c'est qu'une ou deux fois tu te fais transpercer, tu as l'arme létale qui est Mbappé, et les 1 contre 1 contre Mbappé avec cette défense-là monégasque, qui quand même prend pas mal de buts, a vraiment beaucoup de mal dès qu'il s'agit de courir en direction de son but. Demain, je suis l'entraîneur de Monaco, je ne suis pas sûr d'aller les chercher aussi haut pour me faire transpercer juste 2-3 fois. Il suffit 2-3 ballons. Mbappé, Dembélé ou même Colomboigny, même s'il y a un peu plus de mal, font le reste. Donc, moi, je vois pas tellement ça. Moi, je vois plus une équipe de Monaco qui est bloc médian, qui ne va pas forcément chercher les centraux les centraux qui vont dire à PSG, écoutez, essayez de relancer, essayez de chercher vos milieux, essayez de chercher des relais au milieu ou même devant et de vous retrouver face au jeu. Et nous, en transition avec Balogun, c'est pour ça que moi je le vois plus commencer avec Balogun, dès qu'on a récupéré le ballon, essayez de le rattraper. Avec la justesse aussi de Golovin devant et Minamino, je ne sais pas s'il commencera, ou à Kliouf, hein, Kliouf aussi, très bon jeune, avec une très grosse qualité technique. Moi, je pense que le match de PSG, on le connaît, on sait ce qu'ils vont essayer de faire, on sait ce qu'ils vont essayer de mettre en place. Monaco m'interroge plus à ce niveau-là.
Ok.
Déjà, ça me fait plaisir de t'entendre dire que Kakliouche est un très bon joueur, Baptiste. Merci beaucoup.
Non, je suis très très fan de ce joueur, je te dis sincèrement. Bon, là, je l'ai vu en espoir. J'ai regardé le match des espoirs pour Barcola et Kakliouche, pour être tout à fait honnête. J'aime beaucoup ces deux joueurs-là. Et il a pas fait un super match, par contre, en espoir, là. Mais grosse qualité technique. J'adore un peu nonchalant, comme j'aime un petit peu. Il fait les efforts quand il est sans ballon, avec le ballon un peu nonchalant, avec les chaussettes un petit peu basses. J'adore ce joueur. grosse qualité dans les 20 derniers mètres. Il a souvent le geste juste et tout. J'aime beaucoup ce joueur.
Okay.
Et pour avoir été au match du Havre des Espoirs en début de semaine, je peux que te confirmer justement que c'était très compliqué pour les Espoirs français et pour toute l'équipe. Mais c'est vrai que c'est un très bon joueur à Kiouche et ça devrait bien se passer pour lui.
Mais du coup, je vais vous lancer aussi sur l'attaque monégasque. Elle vous inquiète pas aussi, cette attaque monégasque? Parce que quand je regarde, alors ils ont commencé très fort Monaco le début de saison. Hein, je pense qu'ils font quand même noter l'absence de Caio Henrique qui avait commencé la saison avec 4 passes décisives et depuis qu'il est absent, je pense qu'il passe de plus de 2 buts à 1,6 buts par match. Golovin, son dernier but, c'était le 5 novembre. Ben Yedder, c'était le 7 octobre. Balogun, 7 octobre. Minamino, le 25 août, son dernier but, il me semble. Ça fait quand même un petit moment que les attaquants monégas n'ont pas marqué. Ça vous inquiète pas, en fait, on se dit pas que, ok, même si le PSG défensivement ils sont affaiblis, derrière Monaco, devant, ils arrivent plus à trouver les chemins du les chemins du but, sachant qu'on a un gros Donnarumma qui a fait une grosse prestation juste avant la trêve. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, de cette attaque monégasque au final, à l'heure actuelle, à l'instant T?
Bah, personnellement, étant donné qu'ils ont la deuxième meilleure attaque du championnat, moi ça m'inquiète pas trop. Sur le match contre le PSG, oui, c'est compliqué, mais comme toutes les équipes peuvent avoir du mal contre le PSG offensivement parlant, parce que c'est toujours compliqué de jouer le PSG, qu'on se le dise. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a des armes offensives devant. Il y a Ben Yedder, il y a Balogun, il y a Boadou, il y a Minamino, il y a Kliouche. En fait, ils seront pas tous là sur ce match du PSG. Mais sur l'ensemble de la saison, moi je trouve que voilà, ça c'est très cohérent. Ils ont un effectif varié et justement ils ont une belle attaque. Pour avoir la deuxième meilleure attaque du championnat, franchement, c'est pas le souci qui me préoccupe pour Monaco.
OK. Tu penses pareil, Baptiste? Toi aussi, ça t'inquiète pas, c'est oui. Moi je m'en fais trop.
Oui, global, moi aussi pareil, je suis pas du tout inquiet, et encore moins ce match-là, parce que je trouve quand même que Monaco, là où ils ont eu un peu plus de mal ces derniers matchs, c'est que les équipes se sont un peu ajustées par rapport à Monaco, où ils laissaient pas mal d'espace, et là, en regardant le match du Havre, ils ont un peu resserré. Bon, c'est aussi l'équipe qui veut ça, ils jouent le maintien, donc c'est normal qu'ils les ont joués un peu demi-terrain, que ça soit Fofana, que ça soit Zakaria, c'est des très bons joueurs, mais dans la création, c'est pas des monstres, ce que je veux dire. Et donc, quand ils jouent demi-terrain, ils ont un peu plus de mal à trouver des espaces, à trouver des combinaisons, même si Golovin joue très haut, je trouve, moi, sur le terrain depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, pardon. Il joue très haut et des fois, c'est un petit peu dur de le trouver. Et donc, moi, je trouve que contre le PSG, au contraire, ils vont avoir beaucoup plus d'espace où le PSG va jamais jouer bloc bas contre Monaco. Ils vont plutôt chercher à aller de l'avant, à les presser, tout ça. Donc, des joueurs de la qualité de Golovin techniquement, ou même de Balogun et Ben Yedder, bah, tu leur laisses un peu d'espace, ils vont les exploiter. Donc, pas du tout inquiet. Et même sur le long terme, je suis pas plus inquiet que ça. Juste, ouais, il va falloir qu'ils règlent un peu l'attaque placée. Ils ont quand même un peu galéré, même à se créer des occasions contre le Havre. Donc, pas plus inquiet que ça sur le long terme.
Ok. Alors, moi, c'est vrai, ce que j'aime bien aussi avec ces deux équipes, c'est que je trouve que c'est quand même deux équipes qui se ressemblent un peu dans leur trajectoire. Nouveau coach, un effectif. Bon, l'effectif du PSG a plus changé que celui de Monaco, même si au final, Monaco les joueurs comme voilà Minamino ou Golovin commencent à se révéler cette année, hein. Les années précédentes, ils étaient un peu dans le dur. On voit que c'est des coachs qui essaient de mettre en place des nouvelles tactiques. Je m'attends à un vrai beau match, personnellement. Je sais pas si ça sera le match le plus difficile du PSG depuis le début de l'année, mais je pense que ça sera un vrai beau match pour le coup. Même pour les amoureux de football. Donc moi, j'ai envie de voilà, vous poser la question, savoir un peu qu'est-ce que vous prévoyez comme score. Victoire, défaite, nul. Quels sont vos pronostics pour ce match?
Baptiste, supporter parisien, je te laisse donner ton pronostic en premier.
Ouais, d'ailleurs, c'est bien. Moi, je m'attends à un beau match. D'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule sur le calendrier et l'affiche. Je pense qu'on a les deux meilleures équipes, en fait, selon moi, et le voir le vendredi soir après une trêve internationale juste après une trêve internationale et à 4 jours d'un match de Ligue des Champions, je trouve quand même que la LFP, elle ne le met pas beaucoup en valeur ce match, sincèrement. Et donc voilà, après, en ce qui concerne le prono, je suis pas bien confiant tout le temps contre Monaco, sincèrement. Moi, je vois bien un petit un partout. Je pense que le PSG va avoir beaucoup de mal contre cette équipe. On rappelle quand même le contexte du match, hein, Dusty, c'est que 4 jours après, le PSG joue pratiquement sa qualif à Newcastle en Ligue des Champions.
Ouais.
Est-ce que c'est le match le plus important de la semaine pour le PSG? Moi, je me pose certaines questions. De là à dire qu'ils vont lever le pied, j'y crois pas trop, mais tu l'as dans un coin de ta tête. Donc voilà. Et pour Monaco, c'est quand même un des plus gros matchs de l'année. Donc voilà, ouais, un petit un partout, un petit match nul. S'il faut des buteurs, je vais aller dans le classique ce côté PSG, Mbappé, et pareil côté Monaco, parce que Ben Yedder, il adore marquer au parc. Je vois pas pourquoi cette année, il l'aimerait pas, quoi.
Ok. Et toi, Maxime, t'en penses quoi?
Bah, faut changer parce que c'est vrai que j'aurais dit un partout aussi, mais étant donné qu'il faut pas donner le même parce que voilà, faut un peu de diversité. Je me dis que le PSG va quand même vouloir faire de belles choses. Mbappé est sur une très belle lancée avec l'équipe de France. Donc dans ce cas-là, je dirais 2-1 pour le PSG pour se mettre en confiance par rapport à mardi prochain.
Ok.
Et côté buteur, étant donné que il y a un joueur, je trouve exceptionnel au PSG, je dirais un doublé d'Mbappé. Et côté Monaco, je verrais bien un but de Golovin.
Ok. Alors, moi de mon côté, je vais vous surprendre. Alors, déjà, il y a une stat qui est assez drôle parce que quand le PSG gagne, le PSG met au moins 3 buts. Si je me trompe pas, hein, si j'ai pas loupé de match, mais à chaque fois que le PSG gagne, le PSG a mis 3 buts. Donc il y aura pas de 2-1, Maxime, pour commencer. Et moi je pense que Monaco va gagner. Je pense que Monaco va gagner 2-1 parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais la semaine prochaine il y a un gros match face à Newcastle. Je pense que même si les joueurs le disent pas et voilà, ils essayent d'être concentrés sur le match qui vient, ils auront la tête à Newcastle parce qu'ils savent que perdre contre Newcastle, bah c'est quasiment être éliminé de la Ligue des Champions. Donc moi je pense que Monaco va gagner 2-1 au Parc avec un petit but de je l'annonce à chaque fois mais ça se passe pas mais j'ai quand même envie de dire un petit but de Dembélé et je vois bien un but de je vois bien un petit but de Golovin et un but de Ben Yedder.
Donc tu vois un but de
Non, mais
Dembélé sur un centre qu'il rate, c'est ça?
c'est ça.
Mais attends, Dusty, là depuis le début du podcast, on a dû faire ouais, 4-5 matchs du PSG. Je crois que tu les as jamais vus gagnants. Bon, on parle bien du PSG ou du PSC là rapidement?
Non mais hey, attends, quand on regarde les matchs, quand tu regardes le match, par exemple Brest, j'avais prévu un match nul. Après la première mi-temps, on s'en tire, enfin le PSG s'en tire 1-0, c'est un peu un miracle quand même. Hein. Genre,
Ah,
si, je
non,
dis,
c'est rien ce que tu parles.
en
Ouais.
France, pardon, j'étais pas si loin que ça de la vérité, tu vois, sur la première mi-temps. Bon, après il y a eu des ajustements, ils prennent un deuxième. Bon, voilà, on va pas réécrire l'histoire. Mais je trouve que ce PSG, il est pas, enfin en Ligue 1 en tout cas, il est pas si dominant que ça et que souvent ça joue à des petites choses en fait. Ça joue à des petites choses pour qu'il gagne.
Non, mais et globalement, d'ailleurs, c'est un sujet très intéressant parce que globalement, un peu parallèle au match, mais globalement, moi je trouve qu'on est assez dur avec ce PSG-là, qui est en totale reconstruction. On parle d'un
C'est vrai.
nouveau coach, on parle d'un milieu qui a complètement changé, enfin, entre 6 et 7 joueurs qui ont changé par rapport à l'année dernière, et que je trouve les attentes, elles sont un peu disproportionnées par rapport à l'équipe, par rapport au chantier, et même, je me mets à la plus loin, je vais peut-être en faire créer certains, mais au talent de cette équipe. Je pense que il faut du temps. Là, et en plus, Luis Enrique répète beaucoup qu'il faut assimiler ces principes de jeu, ceci, cela. Donc, moi, je trouve quand même globalement qu'on est très très dur avec cette équipe. Déjà qu'elle soit première, tu me diras, c'est normal par rapport au budget, par rapport aux sommes investies, tout ça. Mais c'est, enfin, le foot, c'est pas aussi simple. C'est un petit peu plus compliqué. Des fois, je trouve qu'on la voit trop belle. Et même des défaites qu'on trouve incroyables. En fait, là. Faut dire qu'en Ligue des Champions, bah, il n'y a pas une marge entre le Milan et le PSG. Et je pense que on a du mal à se dire en France qu'on a l'habitude du PSG de Messi, de Neymar, avec des joueurs très clinquants. Enfin, c'est plus le même aujourd'hui.
Non mais c'est vrai et c'est pour ça que moi enfin je vois pas le PSG voir gagner tout le temps, tu vois, quand je regarde les matchs, à chaque fois je trouve que Bon, alors, il y en a certains où ils sont très bien débrouillés, ils ont fait le taf, rien à dire. Mais moi, je les trouve pas si dominants que ça. Et souvent, ça se joue sur... voilà, tu prends le dernier match, il marque à la 5e minute. Et donc, du coup, ça te change le match. Reims derrière qui n'arrive pas à marquer, qui en prennent un deuxième, ça les casse. Bon, fin du match, au revoir. Et bon, avec des si, comme on dit, on met Paris en bouteille. Et c'est pour ça que moi, je pense que face à ce Monaco-là, je pense que ça va pas être si simple que ça, sachant que Monaco, eux, n'ont rien à jouer. C'est le match le plus important pour eux en ce début de saison, après le match contre Nice qu'ils ont perdu parce qu'ils loupent deux pénaltys. Et je trouve que Monaco, bah, ils peuvent battre le PSG, surtout qu'il y a un historique, hein, Monaco-PSG. Hein. C'est pas comme si Monaco n'avait jamais battu le PSG. Hein. Donc, moi, c'est pour ça que je vois Monaco, je vois bien Monaco battre le PSG. Quand tu mets, voilà, toutes les raisons bout à bout, je vois bien Monaco battre le PSG. Ouais. Après, je suis peut-être dur avec le PSG.
Non, t'as raison. Et puis, si on se réfère à l'historique, il y a deux mois, la seule défaite du PSG au Parc, c'est après une trêve, un vendredi soir contre Nice. Donc, je dis ça, défaite 3.
Nice est à côté de Monaco, donc peut-être que le côté sud-est, c'est pas forcément bon pour eux.
Avec en plus un, franchement, j'étais au Parc, il n'y avait absolument rien à dire. Nice a mérité sa victoire à 100%. Et non, sincèrement, avec un très bon plan de jeu de l'entraîneur. Donc, ouais, tu as peut-être raison. Après, je pense que déjà, c'est plus la même équipe du PSG. Je pense que deux mois sont passés. Je sais pas. Bon, moi, je te vois un partout, mais je suis pas très fort en prono. Donc.
De toute façon, si Desti à chaque fois voit le PSG perdant et qu'il les voit encore perdants alors qu'ils ont à chaque fois gagné, amis parieurs, allez-y, victoire du PSG, là c'est facile de gagner de l'argent.
Dès qu'il les voit perdre, tu vois, je vois ça comme un bon signe.
En fait, mais c'est ça en fait, c'est peut-être un bon signe finalement. Genre, faut pas écouter ce que je dis, faites le contraire.
Depuis le début, en fait, il les voit perdants pour justement qu'ils gagnent. Donc, il va continuer sur sa lancée jusqu'à la fin du championnat. Il va dire Paris perdant contre Brest, contre Lorient, contre toutes les autres, juste histoire qu'il y ait 3 points. Mais bravo, très bonne
continue de très bonne continue. Continue.
Mais par contre, je te rejoins, Baptiste. C'est vrai que je trouve les gens très durs avec le PSG. Alors que quand on regarde le classement, oui, il y a eu des défaites, mais le PSG est premier. Alors les gens vont dire oui, mais le PSG doit être premier au vu de ce qui se passe. Mais ça se passe pas comme ça partout. On le voit dans les autres championnats, c'est compliqué. C'est pas parce qu'il y a le plus gros budget que tout de suite l'équipe doit être première. Le PSG s'en sort bien, ils ont la Ligue des Champions à côté. Il y a énormément d'internationaux. Il y a eu énormément de changements au niveau du mercato. Quand on prend l'équipe type par rapport à l'équipe de l'année dernière, ça a changé plus de la moitié. Donc c'est vrai que c'est un PSG en reconstruction qui, pour moi, s'en sort bien. Alors oui, c'est compliqué dans le jeu, c'est pas forcément un PSG qu'on aime voir parce qu'on a vu des grandes stars avec des superbes victoires. Mais c'est un PSG qui est premier, qui est toujours en course pour la Ligue des Champions au niveau de son groupe. Donc les gens sont durs avec le PSG alors que ils répondent à minimum présent.
Mmh. Ouais, c'est pas abouti pour l'instant, c'est en construction, pas forcément abouti, mais après c'est vrai qu'on fait souvent le parallèle avec la Ligue des Champions avec le PSG. Bon, là on est dans un podcast Ligue 1 exclusivement, mais c'est vrai que c'est pas abouti, les matchs sont pas forcément aboutis, mais est-ce que au bout de 4 mois et autant de changements et une nouvelle identité de jeu, est-ce que c'est pas normal? Je me dis, c'est vrai que parfois on aimerait que ça aille un petit peu plus vite, mais c'est un peu plus compliqué que ça.
Non, on est d'accord. On va passer au match suivant maintenant. Du coup, le match du dimanche soir, le gros match du dimanche soir, donc Lyon versus Lille. Alors, c'est un match un peu bizarre dans le sens où Lyon a obtenu sa première victoire la semaine dernière face à Rennes, hein, donc une victoire qui n'a pas été facile à être obtenue. Mais qui l'a quand même, qui est arrivé grâce à ce but de l'Irlandais O'Brien. Et de l'autre côté, on a un Lille qui, sur ces dernières journées, qui tâtonne un peu plus, qui a eu un peu plus de mal à enchaîner les résultats. On l'a vu faire un match nul face au LOSC. Elle a fait 1-1 face à Toulouse, alors qu'elle a complètement dominé l'équipe de Toulouse. Hein. Pour le coup, l'expression « dominer n'est pas gagner » s'applique complètement à ce match-là. Et pourtant, deux journées avant, elle avait réussi à battre Monaco d'une assez belle manière, 2-0 à la mi-temps. Donc, moi, tout de suite, on va commencer en parlant de Lyon. Alors, peut-être que, pareil, je m'enflamme un peu, mais bon, à force, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, hein, j'aime bien m'enflammer. Est-ce qu'on peut considérer que c'est bon, Lyon s'est mis en mode survie, elle a compris qu'elle joue la relégation et qu'elle va gagner maintenant ses matchs qu'au forceps et qu'elle a la possibilité d'aller chercher un résultat face à ce Lille qui, pour moi, sur le papier, est meilleur. On va commencer par toi, Maxime, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, je trouve que Lyon a une belle équipe, déjà, premièrement. C'est la mayonnaise qui ne prend pas, ça arrive. Il y a eu énormément de changements de système de jeu, il y a eu énormément de changements de composition d'équipe. Je ne suis pas sûr que la compo soit encore trouvée par le coach. Parfois, ça met du temps. Mais mode survie, je sais pas, parce que c'est vrai que il y a quand même des joueurs, la majorité n'ont jamais joué le maintien. Donc, je pense sincèrement qu'ils vont se maintenir parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs de qualité et qu'il y a d'autres équipes en Ligue 1 qui ont beaucoup plus de faiblesses et qui justement vont perdre des points bêtes et que Lyon va pouvoir aller prendre des points là où d'autres ne le feraient pas. Ce qui a été l'occasion par exemple d'aller prendre des points contre Rennes alors que c'est vrai que il y a certaines équipes qui n'iront pas prendre ces points face à d'autres équipes. Donc, je vais pas dire mode relégation activée et mode victoire activée, mais je pense qu'il y aura des victoires parce qu'il y a une belle équipe de Lyon qui va se trouver et il y a un mercato hivernal qui va pouvoir aussi, je pense, bien les aider.
Ok. Et toi, Baptiste, t'en penses quoi ? Est-ce que tu penses que voilà, grosso, il commence à prendre la bonne direction de son équipe, à trouver voilà une bonne alchimie entre ses joueurs, notamment, on l'a vu devant, il avait essayé de jouer avec Baldé et Nouama. Est-ce que tu penses que et Cherki derrière ? Est-ce que tu penses que pour lui, c'est la bonne formule ?
Bah là, ça va être notre premier point de désaccord avec. Avec Max, que moi je trouve pas qu'il y ait énormément de qualité dans cet effectif. Offensivement, si, hein, parce que là j'ai listé Nouama, Cherki, même Lacazette, bien sûr, et même Defigno, moi je trouve toujours qu'il est intéressant, qu'il joue jamais, je comprends pas trop, mais voilà, il y a deux trois bons petits joueurs au milieu de terrain, je trouve ça vraiment, vraiment très, très léger. Et défensivement, à part le O'Brien, là, que j'ai vu, là, contre Rennes, qui a fait putain un bon match. Après Rennes, c'est un contexte très compliqué parce qu'ils ont pris un rouge au bout de la quatrième minute. Et, O'Brien, le reste, je trouve ça très faiblard. Sincèrement, très faiblard. Donc, moi, ce qui me rassure chez Lyon, c'est qu'ils ont compris, ils ont conscience de la situation, qu'elle est très, très compliquée, qu'ils joueront le maintien toute la saison. Ou au moins une très grande partie de la saison. Donc sur ça, je suis plutôt rassuré parce que j'ai un petit peu peur qu'ils disent « mais de toute façon, les victoires elles vont arriver ». Non, je crois qu'ils sont très bien conscients de la situation. Moi, je suis très très inquiet, surtout au milieu de terrain. Je trouve que vraiment, il y a très peu de qualité. Là, on voit, ils ont joué pendant 85 minutes en supériorité numérique. Ils se créent très très peu d'occasions, très très peu de situations. Au bout de la 25e minute, Rennes contrôle complètement le match. Et tu dis, qui joue à 10 ou à 10 contre 11 ? Bien sûr, Lyon avait le ballon, mais on ne faisait absolument rien. Moi, je suis plutôt inquiet, je ne sais pas. Pour ce qui est du système de jeu, pour moi, il fait au match par match, grosso. Là, je pense qu'il a joué, il a joué comme ça. Parce que déjà, à un moment, Cherki, il faut te faire jouer. C'est ton plus gros talent devant. Donc, tu le fais jouer. Je pense qu'il se voyait subir pratiquement tout le match et jouer les contres en gardant le ballon avec Baldé et en partant dans la profondeur avec Nouama. C'est un peu schématique et un peu ce que je dis, mais je voyais exactement ce match-là en disant on va jouer demi-terrain et après on va aller chercher, on va en transition rapide, on va chercher Rennes. Le match s'est pas du tout passé comme ça parce que, comme je le répète, il y a une expulsion au bout de 5 minutes. J'avais vu le match aussi contre Metz où il jouait plutôt bloc bas, où tu sentais que bon, voilà, concrètement, cette équipe, elle joue un peu avec la peur au ventre. Moi, je suis un petit peu inquiet. Peut-être que cette victoire contre Rennes va leur faire du bien dans les têtes. Après, sincèrement, ouais, moi, je les vois galérer à peu près toute la saison, hein. Je te dis sincèrement, je suis pas très optimiste en ce qui les concerne.
Ok.
Contre Lille, ça va être dur, je suis d'accord avec toi. Au milieu de terrain, il y a quelques joueurs, mais c'est dommage parce que c'est vrai que moi, je trouve qu'un Le Penant, c'est un joueur de qualité. Je ne sais pas pourquoi il a du mal autant que ça. Il ne joue très peu.
Il est
Ouais,
blessé
jamais.
ou Le Penant, là?
Il est blessé, là?
Ouais, il est
Je ne sais
blessé.
même pas, tu vois,
Ouais, il
mais il joue vraiment jamais. Donc, tu vois, c'est
Ouais,
dommage
c'est
parce que
blessé avec
c'est vrai que
les
c'est.
espoirs. Normalement, ça devait être grave, mais c'est moins grave qu'on pense, hein, je crois. À un moment, il parlait d'un truc assez sérieux et ça serait un peu moins sérieux.
Ok.
Mais bon, de toute façon, il le fait jamais jouer, donc c'est vrai que c'est pas un joueur
Ouais.
qui aurait joué ce week-end, malheureusement pour lui. Mais c'est vrai que il y a quelques lacunes, hein, bien sûr, ils sont pas derniers pour rien. Mais je pense qu'ils ont un groupe assez fort pour pouvoir changer les choses. Il n'y a pas des joueurs non plus qui sont formidables, mais Akwaku, Cacré, Tolisso, c'est des joueurs qui sont pas flamboyants, mais qui sont quand même pas mauvais non plus. Donc un petit Skelly Alvero qui est pas mal depuis le début de saison, moi qui m'impressionne un petit peu parce que c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il soit totalement apte et qu'il ait le niveau d'un Olympique Lyonnais quand on connaît, on va dire, l'envergure du club. Mais c'est compliqué, ils sont au courant que voilà, ils n'iront pas jouer une place européenne cette saison, c'est évident. Mais il y a des victoires qui arriveront. En tout cas, je pense que ça arrivera. Ils iront chercher des victoires contre Toulouse, contre Strasbourg, contre Lorient, contre Metz et Montpellier, par exemple. Donc voilà, ça devrait arriver.
Bah, surtout qu'en plus Alvero, il me semble qu'il le fait sortir, il le fait sortir à la mi-temps pour faire rentrer Lacazette, pour justement se procurer plus d'occasions. Donc même lui, je pense que Grosso, il a bien dû voir que bah il fallait changer quelque chose et être un peu plus offensif parce que voilà, comme tu disais Baptiste, on se posait la question à savoir qui jouait à 10 et qui jouait à 11 pendant un moment quoi. Surtout face à un Rennes qui était pas forcément voilà, qui a du mal à gagner, certes qui ne perd pas, mais qui avait quand même du mal à gagner. Et en face, bah, ils vont jouer face à un LOSC. Alors, un LOSC qui est quatrième, donc qui est à 4 points de Monaco actuellement, hein, donc qui fait pas une saison si dégueulasse que ça, hein, en tout cas, son début de saison est quand même plutôt intéressant. Ils sont à peu près sur la même lignée que l'année dernière, hein. Ils avaient 2 points de plus l'année dernière, mais de manière générale, ça va. Mais ça reste quand même un LOSC qui a, offensivement, ils ont quand même du mal parce que c'est une équipe qui tire à peu près 12 fois par match. Et au final, quand tu regardes le nombre de buts qu'ils ont mis, ils sont à 14 buts mis depuis ce début de saison, ce qui est pas énorme pour une équipe aussi 15 buts mis pardon pour une équipe aussi offensive que Lille. Jonathan David qui a mis 2 buts il me semble. Cabella, je crois qu'il n'a pas encore marqué. Zegrova, ça doit être un but. Yazice, c'est un but. Enfin, ouais, c'est quand même une équipe qui. Alors, c'est quoi le problème de Lille? Est-ce que c'est un problème qui est tactique ou c'est un problème d'efficacité? Le problème, c'est les joueurs. Dis-moi, Baptiste, toi, t'en penses quoi?
Ouais, globalement, après, moi je trouve qu'il n'y a pas forcément un problème majeur, mais tu as raison, ils marquent beaucoup moins et puis ils sont même moins dangereux. Moi j'adorais cette équipe l'année dernière, je trouvais que c'est une. Moi personnellement, c'était une de mes équipes un peu chouchou, j'adorais ce qu'elle proposait. Je trouvais très bien coaché par Fonseca, qui se projetait assez vite vers l'avant, mais qui était aussi capable de construire assez intelligemment ses actions. Et il joue beaucoup avec les ailiers, que ce soit Ounas l'année dernière, tout ça. Bon, Ounas, je crois qu'il revient de blessure, mais globalement, quand il joue, il n'est pas très bon. J'adorais Cabella, j'adorais Angel Gomez, qui sont quand même. Globalement, je trouve que toutes les individualités, elles sont un petit peu en baisse, là, sincèrement. Et là, bon, la plus grosse, c'est quand même Jonathan David. Je sais plus combien il avait mis de buts l'année dernière, 16 ou 17 buts, même peut-être un tout petit peu plus haut. et là qui est vraiment en panne quoi. Et bah, la preuve c'est qu'il y a 3 matchs de suite où il a pas commencé. Peut-être certainement fatigué parce qu'il n'a pas de doublure, mais globalement ouais un petit peu en baisse. Après sincèrement ils ont fait un super match contre Monaco, surtout une super première mi-temps contre Monaco. Peut-être que ça va un petit peu mieux. J'ai vu aussi la purge contre l'OM, mais bon pour ça ils étaient deux à faire cette purge là. Globalement ouais je trouve que cette équipe elle est un petit peu moins bien que l'année dernière. Ça reste quand même une équipe super sérieuse, bien coachée. Ça m'étonnerait pas qu'avec deux trois retours en forme, elles reviennent bien. Et sur ce match précisément, moi je le vois vraiment au-dessus de Lyon sur à peu près tous les compartiments du jeu. Je pense que Lyon ils vont essayer d'être solides et de bien défendre. Et globalement, je trouve que ouais, je vois quand même un Lille bien supérieur à Lyon sur ce match.
Et vous pensez que l'absence de Benjamin André, du coup, qui est suspendu, ça peut peser côté lillois ou il peut facilement être remplaçable, Maxime?
Bah, moi, je trouve que Lille déjà manque au niveau de l'effectif. On voit que Jonathan David est beaucoup moins efficace que la saison dernière. Donc déjà, je trouve que par rapport à ça, il n'y a pas d'attaquant remplaçant pour un peu le mettre en concurrence. Et quand il a un coup de moins bien, d'essayer justement d'apporter quelque chose d'autre. Sur les ailes, on a de la chance d'avoir un Zegrova qui est très très bon depuis le début de saison. Mais c'est vrai qu'autrement, je trouve que la recrue à Rolson qui est arrivée pour 15 millions d'euros, déçoit, parce qu'on ne le voit pas forcément beaucoup. Ils ont pris un Virginius qui... Bah oui, complètement. On a un Virginius qui ne joue pas. J'étais au match début octobre. Il était même en tribune. Donc c'est vrai que je trouve que ça manque, on va dire, de quantité. Et que justement, l'absence de Benjamin André, qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe, il n'y a qu'un profil pour le remplacer, c'est Ben Taleb. C'est que autrement, il n'y a pas d'autre profil à la Benjamin André, le milieu défensif qui va pouvoir récupérer les ballons, parce qu'à côté de lui, il va y avoir beaucoup de créateurs. Des Angel Gomez, des Yaziche, des Cabela, des Ounas, mais en fait ça manque beaucoup à certains profils au niveau du joueur de LOSC.
Ok. Donc si on se fait un petit bilan là, ce match vous le voyez comment au final? Victoire de Lyon, Lille, nul.
Moi, globalement, je vais te dire sincèrement, sur ce match-là précisément, qu'il n'y ait pas André, je trouve que ça serait plus préjudiciable si jouait les PSG, Monaco, des équipes qui quand même vont essayer un peu d'attaquer. Moi, je vois franchement, sincèrement, Lyon laisser énormément le ballon à Lille. Et s'ils attaquent trop quatre fois dans la mi-temps, ils seront très contents, mais ils vont essayer d'être à la base très très solides. Moi, c'est ce que j'ai l'impression qu'essayent de faire grosso, c'est essayer de prendre maintenant le moins de buts possible, parce qu'à un moment ils prennent à chaque fois une balise et même ils concèdent énormément d'occasions. Je crois que c'est une des équipes qui concède le plus d'occasions. Donc là, ils partent sur ça, et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de ballons et avoir un Ben Taleb pour construire. Je trouve que c'est pas idiot et il est capable d'aller aussi au contact. Je trouve que c'est d'ailleurs une très belle acquisition d'avoir ce trio Angel Gomez, Ben Taleb et André quand il manque un mec. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc moi je suis pas trop inquiet sur ça, mais c'est plutôt offensivement où si David il se réveille pas, il se croit que la doublure, je crois que c'est Cavalero en ce moment. Il a tenté Zegrova. En faux neuf, c'est quand même là où le bas blesse quoi. Donc globalement, moi je vois un match un peu avec une maîtrise lilloise et voir comment vont jouer les quelques coups que vont avoir Lyon, comment ils vont les jouer. Mais globalement, je vois Lille comme je le dis avant, bien supérieur à Lyon quoi.
Ouais.
Sur ce match.
Donc,
Moi, je vois plutôt un match plutôt sans enjeu. C'est vrai qu'un dimanche soir, pour se préparer à la fin du week-end et pas se coucher trop tard pour l'école le lundi matin, parce que c'est vrai que Lyon ne doit pas perdre. Donc, va essayer de pas prendre de but. Ce qui tombe bien, c'est qu'il y a une attaque lilloise qui n'en marque pas beaucoup. Et Lyon qui va potentiellement essayer d'en mettre, mais pas trop non plus, ça tombe bien parce que Lille a une très bonne défense. Donc en fait, moi je vois carrément un 0-0 parce que Lille a du mal offensivement et parce que Lille est bon défensivement. Donc je suis d'accord avec toi, Baptiste, sur une maîtrise de jeu lilloise, mais sans réelles occasions. Et Lyon qui va essayer peut-être par à-coup, mais qui va avoir du mal parce qu'ils sont pas en confiance et que c'est compliqué dans les têtes. Donc ouais, moi je vois un 0-0 entre Lille et Lyon.
Ouais, parce que je sais pas qui programme les matchs, mais alors je sais pas à quel moment il les programme aussi, mais j'avoue avoir calé un Lyon-Lille en dimanche soir. Bon, après c'est vrai qu'il n'y a pas de gros matchs non plus, hein. C'est vrai que le plus gros ça reste PSG Monaco, mais
Et après, t'as la Ligue des Champions, donc tu peux pas faire jouer les équipes européennes. Ils évitent de faire jouer les équipes européennes le dimanche, vu que ce soit Lens, PSG, Marseille, ils évitent de les faire jouer le dimanche pour qu'ils aient une plage de repos plus grande.
ouais. Puis
Mais
si
c'est
le match
surtout
reprogrammé
après.
depuis le début de la saison, se programmer un Lyon-Lille l'année dernière, ça aurait pu faire kiffer, hein.
Non,
Ouais, même l'année dernière, hein. Lyon-Lille, ça te faisait kiffer l'année dernière? C'était
c'était
pas
pas une.
ouf, Lyon, hein.
Ouais, mais c'était moins mauvais que cette année quand même.
C'est vrai. Ouais, tu peux pas faire pire, ils sont
Et puis
derniers.
Lille était une équipe plutôt sympa à regarder l'année dernière en plus. Donc non, c'était pas. En plus, le seul aussi, la FLP, ils sont pour rien pour la. Mais par exemple, le Lens Marseille, qui normalement est une super affiche, bon bah, c'était pas ouf le dimanche soir. Et je crois qu'avant c'était Nice qui jouait contre je sais plus qui, c'était Rennes, hein, c'est ça le match d'avant du dimanche soir 20h45. Et c'était pas non plus terrible. Donc c'est vrai que là, Amazon, ils ont pas eu le pif pour les affiches de 20h45. Et je crois que 3 semaines avant, c'était le problème entre Lyon et
Et
entre
Marseille.
l'OM et Lyon.
Ouais.
C'est vrai que là, ils sont sur une. Mais bon, attends, on peut être surpris, hein, imaginons voir un gros match. Et puis, il y a quand même deux trois joueurs sympas à regarder. Les Cherki. Moi, j'avoue que c'est un de mes joueurs préférés, Zegrova. J'avoue que de la Ligue 1, c'est un de mes petits chouchous. J'aime beaucoup ce joueur. Donc non, il y a quand même deux trois belles choses à voir, quoi.
Ok. Du coup, toi, ton prono pour ce match, Baptiste?
En fait, ouais, comme je t'ai dit, hein, je suis pas très fort en prono, donc c'est plutôt une espérance. Enfin, espérance, non, mais j'ai rien contre Lyon, mais ouais, je vois plus Lille, un petit 1-0 ou 2-1. Ouais, je vais dire 2-1 pour le spectacle, comme ça on va avoir des buts. Voilà, j'en ai parlé, Zegrova, j'aimerais bien qu'il marque un petit but, et Jonathan David et la casette pour Lyon, quoi. Pour Lyon qui met le but du 2-1 et le but de l'espérance, mais en fait non, ça va pas le faire, quoi.
Ouais, pareil, moi je vois même un 2-0, un 2-0 pour Lille, hein. Je pense que Lille, ils ont quand même besoin d'avoir des points pour voilà, rester accrochés au wagon de tête. Ils ont déjà 4 points de retard sur Monaco, donc c'est quelque chose qui peut même se transformer en 7 points. Donc ouais, moi je vois bien Lille gagner 2-0 avec un but de Jonathan David, tu vois, pour un petit réveil de Jonathan David avec. Pourquoi pas une petite tête de Yoro aussi, hein. Il en a déjà mis deux. Pourquoi pas un troisième? Et ouais, un petit 2-0, un petit 2-0 des familles. Bon dimanche, tout le monde va se coucher,
Bah moi, ça m'arrangerait pour MPG, hein. Ça
quoi.
m'arrangerait pour MPG.
Nickel. Bon, on va aussi revenir un peu sur l'actualité foot balistique de la semaine. Donc, il y a deux grosses actualités. Hein. Donc, la première, hein, je vais te lancer, Maxime, le départ de Pep Genesio. Est-ce que c'est une surprise? Oui et non. Oui, parce que voilà, on le sentait pas plus en danger que ça. Quand tu voilà, quand on aidait l'ambiance autour du club, certes, il y avait pas les bons résultats, mais t'avais pas l'impression qu'il était sur la sellette, que voilà, il allait sauter. Et en même temps, bah quand tu vois les résultats et les investissements faits, tu dis bah c'est normal qu'il ait été démis de ses fonctions. Même il me semble que c'est lui qui a décidé de partir, si je me trompe pas. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses de cette news quoi?
De cette news, bah j'ai envie de te dire que je suis un peu déçu parce que c'est vrai que je trouve que ce qu'il a fait est quand même remarquable avec le club. Il a fait de très belles choses. Sur ces différentes années, c'est son choix personnel. Je sais pas de quoi il est dû, mais c'est vrai que les résultats sont un peu décevants. Je l'avais dit depuis le début, lors même du premier épisode, j'avais dit que Rennes allait avoir du mal parce que je trouve que Rennes n'a pas remplacé Doku. Et c'est vrai que Rennes essaye de jouer au ballon parce qu'ils ont des joueurs de ballon, sauf que bah ils sont inoffensifs et que derrière ça manque de qualité également. Donc, moi, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait et que c'était très compliqué d'avoir autre chose. Bon courage à Julien Stéphan pour montrer autre chose parce que c'est vrai que bah, c'est compliqué. Il n'y a pas de joueur offensif qui peut aller faire du 1 contre 1 et justement créer des décalages. Derrière, c'est assez fébrile. Donc, peut-être que Julien Stéphan va relancer des joueurs qu'on a peu vus comme Christopher Wu. Peut-être que Terrier va essayer de revenir suite à sa blessure parce que c'est vrai que c'était assez long. Ouais. Je suis surpris de ce départ parce que je m'y attendais pas et je trouve qu'il a fait un super boulot. Donc moi le premier et tous les supporters rennais l'ont remercié parce que je trouve que c'était un très bon entraîneur. Maintenant, une page se tourne, bon courage au suivant, mais un peu attristé, on va dire, de cette nouvelle.
Bah, surtout qu'en plus, en Europe, il n'avait pas des si mauvais résultats que ça, quoi. C'était vraiment Ligue 1 où ça, voilà, ça fonctionnait pas comme je pense les gens l'attendaient, mais en Europe, il était plutôt, enfin voilà, il avait des bons résultats, enfin surtout cette année.
Les résultats européens sont bons, c'est ça, hein. C'est vrai que ouais. c'est vraiment la Ligue 1 qui cloche. Mais je trouve que c'est une équipe qui manque de jeu en fait. Enfin, il n'y a pas réellement d'efficacité offensive et ils sont moins bons dans les deux surfaces. Et c'est bien d'être bon dans le rectangle vert, mais c'est vrai qu'il y a les deux surfaces où là, ça va être important aussi d'être bon parce que c'est ceux-là qui permettent d'engranger des points.
Ok. Toi, Baptiste, tu veux dire un mot là-dessus? Tu veux rajouter quelque chose?
Ouais. Ouais, je peux. Moi, je suis pas du tout. Enfin, moi, je suis pas surpris. Parce que déjà, on avait entendu parler que en fin de saison dernière, je crois que c'était mars ou avril, hein, quelque chose comme ça, que il pourrait très bien partir à la fin de la saison, Genesio. Et on avait entendu ça. Lui, il avait démenti, bien sûr. Non, mais je sais pas d'où ça vient. Et bon, et comme l'AC. Donc après, tu m'arrêtes si je me trompe. Max, hein, parce que tu suis un peu plus que moi à Rennes, mais je me rappelle qu'il y avait ces échos-là. Il avait continué, puisqu'il finit sur...
C'est vrai, je te confirme.
Ils finissent très bien la saison l'année dernière. Ils finissent très très bien la saison. Là, j'ai écouté, juste avant le podcast, les déclats de Maurice qu'il a fait à RMC, en expliquant que, ouais, déjà, ils en parlaient, qu'il allait peut-être arrêter et que vu la saison comment elle se présentait qu'en gros il repartait pour une année et que c'est bon, il était vachement motivé, mais quand même on sentait dès le début qu'il y avait pas un petit truc de cassé, mais un petit manque de flamme quoi, en gros. Donc ouais, je suis pas forcément surpris. Je crois qu'ils ont c'est 2 victoires en 12 matchs. Quand tu veux jouer je crois les places qualificatives, même je crois qu'à un moment ça parlait un peu de se qualifier pour la Ligue des Champions vu que les 4 premières places vont être qualificatives. Donc moi je suis pas tellement surpris et la question que je pose, parce que après globalement sur le jeu je suis plutôt d'accord avec Maxime, la question que je pose c'est plutôt sur l'organisation et sur le après Genesio. Là on sait très bien que Stéphane, c'est pas du tout Maurice qui l'a choisi, c'est directement l'actionnaire et
ah, c'est Pinot, directement hein.
L'actionnaire.
C'est Pinot qui fait
et
le choix.
Moi, ça me pose question sur l'organisation globale. C'est-à-dire que, enfin, en tant que supporter du PSG, je connais ça, que le directeur sportif ne choisit pas son coach. Et ça va jamais. En fait, ça dure jamais très longtemps, en fait. Alors, sur le très court terme, je suis pas trop inquiet pour Rennes, parce que je trouve qu'ils ont quand même des bons joueurs. Devant, ça va fitter, le nouveau discours, on connaît tout ça. Mais plus sur le long terme, je suis un peu plus inquiet parce qu'un directeur sportif qui choisit pas le coach, bah, certes, il fait le recrutement et tout, mais ça veut dire qu'en fait, en gros, tu l'as déjugé. Je suis un petit peu inquiet sur l'avenir, en tout cas, bah, pour Florian Maurice et plus particulièrement pour le Stade Rennais, où ils vont réellement. Parce que, globalement, moi, devant, ils ont des bons joueurs. Je trouve que, bon, c'est vrai que défensivement, c'est un peu léger, mais au milieu, c'est quand même sérieux. Tu peux faire des. Enfin, Matic, Bourigeaud, ce genre-là, tu sens un Maria, tu peux faire. En Ligue 1, ça tient vachement la route, quoi. Blas devant, avec Alimondo, Gouiri, bien coaché, je pense que ça. Tu peux remonter assez facilement hein, en Ligue 1. Ouais. Donc, mais c'est plus sur le long terme que je vois que voilà, quelle direction prendre réellement, quel projet tu donnes, quelle identité de jeu, est-ce que Stéphane va rester s'il reste sur une bonne saison, parce que là il a signé que pour la fin d'année, il a même pas d'option d'une année supplémentaire. C'est très compliqué à y voir clair en fait sur Rennes.
Ok. Et on va revenir sur la deuxième actu de la semaine. En tout cas, celle qui a fait un peu de bruit, hein, c'est les propos de Thierry Henry sur la Ligue 1. En tout cas, sur deux journées de Ligue 1, la 12e et la 13e journée de Ligue 1. Voilà, qu'il a jugé 11e et 12e, pardon, qu'il a jugé pauvre en but. Bon, on peut pas lui retirer ça. Et derrière, Der Zakarian, voilà, qui lui a un peu tiré dessus. En critiquant son passage à Monaco, ou en tout cas en critiquant ses propos. Vous, est-ce que vous avez trouvé voilà les propos d'Henri choquants? Est-ce que ça vous a dérangé? Est-ce que je sais pas, quelle est votre impression par rapport à ces déclarations? Maxime, on va commencer par toi.
Après, je trouve que voilà, ça fait parler les journalistes, ils sont contents. Derrière, ça crée des débats entre les coachs de Ligue 1, coachs de l'équipe de France Espoir. J'ai ouais. pas forcément grand chose à dire. Hein. Oui, des fois, il y a des journées où il n'y a pas forcément beaucoup de buts. Après, est-ce qu'un match sans but est un mauvais match? Bah, pas forcément. Est-ce qu'un match avec beaucoup de buts est un beau match? Pas forcément non plus. Donc moi j'étais au match lundi des espoirs. C'était pas un beau match hein, donc j'ai pas vu le match contre l'Autriche des espoirs non plus. Les propos de Der Zakarian qui va entre guillemets attaquer Thierry Henry sur le fait de voir des belles victoires face à l'Allemagne, à l'Espagne ou autre, ça peut être compréhensible, mais bon, c'est se taquiner ensemble, pas forcément grand-chose à dire.
Ouais. Ouais, surtout qu'en plus c'est ce que Henri disait plus, c'était pas le problème, c'était pas forcément les buts, mais c'était plus voilà le jeu, les actions qu'il trouvait un peu maigre. Toi Baptiste, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ces petites joutes verbales, on va dire?
Non, mais en plus moi j'aime beaucoup Der Zakarian, mais ouais, j'ai trouvé un peu ridicule les pics et tout ce qu'il a énoncé juste des faits, Henri, et franchement globalement le suiveur de Ligue 1. Je sais pas si on se rejoint sur ça. En tout cas, moi, je trouve que, sincèrement, ce début de saison de Ligue 1 est bien plus pauvre que les deux dernières, qui étaient franchement très intéressantes d'un point de vue du jeu. Pas forcément que des buts, je parle, mais même des équipes, elles étaient beaucoup plus joueuses, ça attaquait un peu plus. Enfin, on voyait, on se régalait un peu plus globalement. Et je trouve que la pique je trouve ça très facile en fait. Et c'est dommage que Der Zakarian, coach que j'aime bien plutôt, qui est un peu caricaturé, et le problème c'est qu'avec ce discours là, bah, il le sera toujours caricaturé, parce que enfin, attaquer, en plus c'est même pas une attaque personnelle sur Der Zakarian, c'est la vérité en Ligue 1, c'est que je crois qu'on lui pose la question, la veille ou l'avant-veille de non le lendemain pardon du match contre Lens et Marseille, bah, Henry va pas dire que c'était un super match alors que c'est pas la vérité.
Ouais.
Le match, on l'a tous vu, il était très moyen. Et globalement, bah, on s'emmerde un peu plus en Ligue 1 qu'avant, quoi. Et que l'année dernière ou il y a 2 ans, comme je le dis. Donc, sincèrement, je trouvais que les propos étaient un peu déplacés. Et donc, ouais, je trouve que ouais, c'est une petite polémique, mais d'après ce que j'ai entendu, ils se sont parlé et l'histoire s'est réglée, en fait. Hein, donc.
Ok. Ouais, c'est bah comme Maxime dit, voilà, c'était pour faire parler les journalistes, quoi.
Ouais. Non, mais surtout qu'Henri, c'est pas méchant ce qu'il a dit. Sincèrement, on reprenait la décla, il a rien dit de très très grave en fait.
Non, c'est des faits. En soi, c'est des
Oui.
faits. C'est voilà, c'était deux
Oui,
jeux.
mais il est pas très offensif, hein. Il est pas très offensif sur les. Sur, bah, voilà, et on entend bien pire d'autres consultants. Je trouve que c'était une attaque un peu gratuite sur le fond comme sur la forme en fait. Hein.
Ok. Bon, bah, messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné pour parler de cette 13e journée de Ligue 1. Bah, on espère qu'elle sera riche en buts. Je remercie les auditeurs et les auditrices qui auront écouté cet épisode en espérant qu'on vous aura aidé à vous faire une idée un peu plus précise sur ces deux gros matchs de Ligue 1 qui nous attendent. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, hein, donc Twitter et Instagram, et à écouter régulièrement nos émissions. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine, passez un très bon week-end de Ligue 1, et puis à très vite pour parler du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.